Chapitre 36. Emma n'eut pas besoin de réfléchir longtemps pour se rendre compte de la nature des sensations qu'elle avait éprouvées au sujet des nouvelles de Frank Churchill. Elle se convainquit bientôt que ce n'était pas pour elle-même qu'elle était inquiète, mais bien pour lui. L'attachement qu'elle sentait s'était réduit à bien peu de choses. Mais si lui, qui était le plus épris des deux, revenait avec les sentiments qu'il professait avant son départ, elle en ressentirait un vif déplaisir. Si une séparation de 2 mois ne l'avait pas un peu refroidie, il y avait du danger pour elle. Il faudrait prendre des précautions, surtout ne lui donner aucune espèce d'encouragement et écarter toute déclaration directe. Ce serait bien mal finir une connaissance qu'elle avait désirée. Elle s'attendait néanmoins à cette déclaration et il lui vint dans l'idée que le printemps ne se passerait pas sans qu'il n'y eût quelque chose de décisif pour elle qui dût lui faire perdre la tranquillité dont elle jouissait. Ce ne fut pas aussitôt que M. Weston l'avait annoncé, mais peu après, qu'elle se forma une idée exacte des sentiments de Frank Churchill. La famille d'Inscombe n'arriva pas à Londres autant qu'on avait cru qu'elle y viendrait. Mais 2 heures après que la famille fut descendue de voiture, Frank arriva à Randalls et se rendit sur le champ à Hartfield. Emma fit des observations, jugea bien vite de sa situation et se traça un plan de conduite. Leur entrevue fut amicale, il manifesta le plus grand plaisir de la revoir. Mais elle crut s'apercevoir qu'il ne l'aimait plus tant qu'auparavant. Elle l'épia avec soin et fut convaincue qu'elle ne s'était pas trompée. L'absence et peut-être l'indifférence qu'elle lui avait montrée avaient sans doute produit en lui le changement qu'elle voyait et qui lui fit le plus grand plaisir. Il paraissait fort animé, aussi prompt à parler qu'à rire, à revenir sur sa première visite, mais il paraissait agité. Il n'était pas calme et ce ne fut pas par là qu'elle le jugea. Sa préoccupation était visible. Quoi qu'on jouait, on voyait qu'il n'était pas dans son assiette ordinaire. Mais quand ce qui lui servit plus que tout le reste à asseoir son jugement, c'est qu'il ne resta qu'un quart d'heure avec elle pour rendre, dit-il, des visites à Highbury. Il avait rencontré sur sa route une foule de connaissances à qui il n'avait dit qu'un mot. Mais il avait la vanité de croire qu'on l'attendait. Et, malgré l'envie qu'il avait de demeurer plus longtemps à Hartfield, il se voyait à regret obligé de prendre congé. Elle était bien certaine de la diminution de sa passion, mais ni son agitation, ni son départ subi ne lui firent penser qu'il fût totalement guéri. Elle crut, au contraire, qu'il craignait qu'elle ne reprît son ascendant, ce qui l'engageait à ne pas rester longtemps avec elle. Ce fut la seule visite qu'elle reçut de lui en 10 jours. Son intention était de se rendre à Hartfield tous les jours, mais des affaires, des contretemps l'en empêchaient. Sa tante ne pouvait pas supporter son absence. C'est ce qu'il écrivait de Randalls. S'il disait vrai, c'était une preuve que le séjour de Londres n'avait pas apporté de remède aux maux de nerfs de Madame Churchill. Il était certain qu'elle était très malade. Il l'avait lui-même déclaré à Randalls. Quoi qu'on pût donner quelque chose aux caprices, il était certain que l'état de sa santé avait empiré depuis 6 mois. Il n'appréhendait aucun danger pour ses jours, mais il ne croyait pas, comme son père, que cette maladie fût imaginaire. Il parut bientôt que Londres n'était pas le lieu qui convenait. Il lui était impossible de supporter le bruit qui s'y faisait, et après 10 jours passés dans cette ville, Frank écrivit qu'on avait résolu de changer de résidence. On devait aller à Richmond. On avait recommandé à Madame Churchill un célèbre médecin qui y résidait. Outre cela, elle avait une grande prédilection pour cette ville. On loua une maison meublée et M. Churchill espérait que ce changement serait avantageux à son épouse. Emma apprit que Frank, enchanté de cet événement, était charmé d'avoir en perspective 2 grands mois à passer dans un lieu peu distant de celui où il avait tant d'amis. Il écrivait qu'il aurait la liberté de les visiter presque aussi souvent qu'il voudrait. Emma vit bien que M. Weston avait de grandes espérances, qu'elle en devait faire les frais, mais, suivant elle, il se trompait. Au reste, ces 2 mots devaient décider l'affaire. Ce changement de Londres à Richmond faisait le plus grand plaisir à M. Weston. car de cette dernière ville à Randalls, il n'y avait que 9 000 qui pouvaient se faire en un peu plus d'une heure, au lieu qu'il y en avait 16 de Londres, et même 18, puisque leur hôtel était dans le Manchester Square. Il lui fallait perdre un jour sur la route lorsqu'il obtiendrait la permission de s'absenter, ce qui faisait une grande différence. Ce changement des Churchill, outre la proximité, offrait une excellente chose. C'était la reprise du projet d'un bal à l'hôtel de la Couronne. On ne l'avait pas oublié, mais on n'avait pas pu fixer le jour qu'il aurait lieu. Mais, à présent, on pouvait compter sur ce bal. Aussi, on en fit les apprêts, aussitôt conçu que Madame Churchill allait un peu mieux et que Frank pourrait se rendre à Randalls le jour qu'on lui indiquerait pour y passer 24 heures. Ce bal n'était donc plus une chose imaginaire et, en peu de jours, le bonheur des jeunes gens d'Highbury allait être à son comble. M. Woodhouse s'était résigné. La saison propice où l'on entrait l'avait réconcilié avec le bal. Mai était en tout préférable à février. Madame Betts était invitée à passer la soirée à Hartfield. Jacques avait été prévenu et il espérait que les enfants Henri et Jean ne souffriraient pas pendant l'absence de sa chère Emma. Frank Churchill arriva enfin et l'hôtel de la Couronne était le lieu où Emma devait le voir pour la seconde fois depuis l'arrivée de sa famille à Londres. M. Weston l'avait prié instamment de venir de très bonne heure pour profiter de ses avis sur les préparatifs. Elles crurent ne pouvoir le lui refuser, et ayant été prendre Mademoiselle Smith, elles arrivèrent à la Couronne immédiatement après les Weston. En conséquence, elles comptaient passer quelques instants avec Frank. Le jeune homme était aux aguets, et, quoiqu'il parlât peu, ses yeux annonçaient qu'il espérait passer une délicieuse soirée. Ils parcoururent ensemble tout le local. Mais, quelques minutes après, il fut rejoint par une grande quantité d'autres personnes venues en voiture. Emma allait s'écrier que c'était arrivé de trop bonne heure. Mais elle trouva que, comme elle, cette famille avait été invitée pour le conseil. Une autre voiture, pleine de cousins et de cousines, vint augmenter le nombre des conseillers. Emma s'aperçut que M. Weston ne comptait pas uniquement sur son bon goût et qu'on ne devait pas tirer vanité d'être au nombre de ses confidents. Une bienveillance générale, mais non une amitié banale, était ce qui rendait l'homme ce qu'il devait être. Elle s'imagina connaître un homme de ce caractère. On se promena pour admirer les préparatifs de la fête, après quoi on s'assit devant le feu, observant sagement que, jusqu'au mois de mai, le feu était agréable. Emma trouva que ce n'était pas la faute de M. Weston si le nombre des conseillers n'était pas plus considérable. Plusieurs d'entre eux s'étaient arrêtés chez Madame Betts pour offrir des places à Mademoiselle Betts et Fairfax, mais elles devaient être conduites par les Elton. Frank était assis à côté d'elle, mais il paraissait très inquiet et n'avoir pas l'esprit en repos. Il regardait à droite et à gauche, de temps en temps il allait à la porte, prêtait l'oreille au moindre bruit. Il semblait impatient d'être en action ou craignait de rester trop longtemps à côté d'elle. On parla des Elton. « Je pense, dit-il, qu'ils seront bientôt ici. J'ai grande envie de la voir, j'en ai beaucoup entendu parler. » Une voiture se fit entendre. Il se leva sur le champ, mais se remettant en place. « J'oubliais, dit-il, que je ne les connais pas. Je n'ai jamais vu ni monsieur ni madame Elton. Je ne dois pas me mettre en évidence. » Monsieur et madame Elton entrèrent et furent reçus comme ils devaient s'y attendre. « Mais Mademoiselle Betts et Mademoiselle Fairfax, dit M. Weston, nous pensions que vous les auriez prises en passant. » L'erreur n'était pas grande, on leur avait envoyé la voiture. Emma était impatiente de savoir ce que Frank pensait de Madame Elton, combien il avait été frappé par l'élégance de sa mise et de ses agréables sourires. Il était occupé à l'étudier pour pouvoir donner son opinion. Peu après, la voiture retourna. Quelqu'un parla de pluie. « Je vais voir s'il y a des parapluies, » dit Frank à son père. « Il ne faut pas oublier Mademoiselle Betts. » Il sortit. M. Weston allait le suivre, mais Madame Elton l'arrêta pour lui faire le plaisir de lui dire l'opinion qu'elle avait de son fils, et elle commença si vite et d'un ton si haut que le jeune homme, quoiqu'éloigné, put l'entendre. « En vérité, vous avez un très beau garçon. Vous savez que je vous ai dit honnêtement que je voulais juger par moi-même. Maintenant, j'ai la satisfaction de vous apprendre que je le trouve très bien. Croyez-moi, je ne fais jamais de compliments. C'est un très beau jeune homme et ses manières sont telles qu'elles ne laissent rien à désirer. Il a l'air d'un homme bien né et exempt de fatuité. Vous saurez que je ne puis supporter les fats. On n'en souffrait point à Maple Grove. Monsieur Suckling les détestait ainsi que moi. Il n'y avait que Célina qui, plus douce que nous, prenait patience. Tant qu'elle parlait de son fils, elle captiva l'attention de Monsieur Weston. Mais lorsqu'elle le quitta pour Maple Grove, se souvenant qu'on attendait des dames, il lui sourit gracieusement et la quitta brusquement. Madame Elton, se tournant vers Madame Weston, lui dit « Je ne doute pas que ce ne soit notre voiture qui amène Mesdemoiselles Betts et Fairfax. Notre cocher et nos chevaux sont si actifs. Je ne crois pas que personne soit mené comme nous. Quel plaisir de pouvoir envoyer sa voiture à des amis. J'ai appris que vous aviez fait offrir la vôtre. Mais à l'avenir, c'est inutile. Je me charge du soin de ces dames. » Ces demoiselles, escortées par le père et le fils, entrèrent dans la salle. Et mesdames, Elton et Weston, allèrent les recevoir. Les gestes de la première pouvaient être observés, mais Mademoiselle Betts ne permit pas qu'on l'entendît, car à peine entrée, elle s'écria « Vous êtes bien obligeant. Il ne pleuvait pas, je ne crains rien pour moi, j'ai des souliers fort épais. Ah, que c'est brillant, admirable. Jeanne, voyez donc, l'auriez-vous cru ?» « Oh, monsieur Weston, vous avez emprunté la lampe d'Aladin. La bonne madame Stokes ne pourrait plus reconnaître la salle. Oh, madame Weston, comment vous portez-vous? Je vous remercie très bien. Madame Elton, mille grâces pour la voiture. Elle est arrivée à temps, nous étions prêtes, les chevaux n'ont pas attendu un instant. Nous vous remercions aussi, madame Weston. Deux offres le même jour, que nous sommes heureuses. » « Sur ma parole, madame, je vous remercie, ma mère se porte fort bien. » Elle est allée chez M. Woodhouse. Je lui fais prendre le châle que Mme Dixon lui a envoyé lorsqu'elle s'est mariée. Il y en avait trois autres. On hésita longtemps pour savoir celui qu'on achèterait. Le colonel Campbell préféra celui qui était couleur d'olive. « Ma chère Jeanne, ne vous êtes-vous pas mouillé les pieds? Il n'est tombé que quelques gouttes et il y avait un paillasson. » « Monsieur Frank Churchill a tant de bonté. »« Oh, monsieur Frank, les lunettes de ma mère n'ont pas bougé depuis. Elle parle souvent de vous, et nous aussi. N'est-il pas vrai, Jeanne ?»« Ah, mademoiselle Woodhouse, comment va la santé? Nous sommes ici dans le pays des fées. Que vous êtes belle! Comment trouvez-vous la coiffure de Jeanne? Le premier perruquier de Londres ne ferait pas mieux. »« Ah, le docteur Hughes, il faut que je lui parle. » « Ah, Madame Otway et ses demoiselles. Et Monsieur Georges. Et Monsieur Arthur. J'entends une autre voiture, c'est sans doute celle des aimables Cole. Quelle quantité d'amis! Point de café, je vous rends grâce, un peu de thé. Je ne suis pas pressée. » Frank Churchill retourna se placer près d'Emma, et aussitôt que Mademoiselle Betts eut cessé de parler, elle entendit la conversation de Madame Elton avec Jeanne Fairfax, qui était un peu derrière. Frank était pensif. Elle ne savait s'il prêtait aussi l'oreille. Après avoir complimenté Jeanne sur sa mise et sa beauté, elle en demanda autant de sa part. « Comment trouvez-vous ma robe? Et cette garniture ?» Jeanne répondit poliment. « Personne, continua Madame Elton, ne se soucie moins que moi de la toilette, mais en une pareille occasion, lorsque tous les yeux sont portés sur moi, et ensuite, pour remercier les Weston, car c'est à moi qu'ils font l'honneur du bal, je ne voudrais pas paraître moins bien mise que les autres. Et je vois peu de perles, excepté les miennes. Ainsi, Frank est un beau danseur. Nous verrons si notre style de danse s'accorde. C'est véritablement un très beau jeune homme. Il me plaît beaucoup. » En ce moment, Frank se mit à parler si haut qu'Emma crut qu'ayant entendu les louanges qu'on faisait de lui, il n'en voulait pas savoir davantage. M. Elton étant entré dans ce moment, Madame s'écria « Oh, enfin, vous nous avez trouvés! Je disais à Jeanne que j'étais étonnée que vous n'ayez pas encore envoyé savoir de nos nouvelles. » « Jeanne, répéta Frank Churchill, c'est familier, mais il paraît que Mademoiselle Fairfax ne le désapprouve pas. » « Comment trouvez-vous, Madame Elton ?» lui demanda Emma à l'oreille. « Elle ne me plaît pas du tout. »«
Vous n'êtes pas reconnaissant. »«
Ingrat ? Que voulez-vous dire ?»
Remplaçant sa mine rechignée par un sourire.
« Non, je ne veux pas le savoir. Où est mon père ? Quand commencerons-nous à danser ?»
Emma ne comprenait rien à sa conduite. Il paraissait de mauvaise humeur. Il alla chercher son père, mais il revint bien vite avec lui et Madame Weston. Il les avait trouvés dans un grand embarras qu'il voulait soumettre à Emma. Madame Weston avait pensé que c'était à Madame Elton d'ouvrir le bal, qu'elle s'y attendait, et que cette circonstance les empêchait de lui donner cette marque de distinction. Emma entendit cette vérité avec courage.
« Et quel partenaire lui donnerons-nous ? »
Elle croira que Frank devrait lui offrir la main.
Frank, se retournant brusquement vers Emma, lui rappela ses promesses, dit qu'il était engagé, ce que son père approuva. Alors Madame Weston dit à son mari que c'était à lui à s'offrir à Madame Elton. Il y consentit sans peine. Ainsi, Emma n'eut que la seconde place, quoique le bal fût donné à son intention. Cela lui fit presque venir l'envie de se marier.